Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 8 mai 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, quelles sont les nouvelles financières importantes depuis la dernière semaine?
Il y a eu toutes sortes de bonnes nouvelles depuis une semaine. Les marchés performent très bien. Depuis notre dernier balado, le TSX est en hausse de 1,3%, le S&P 500 de 1,4%, le Nasdaq du côté technologique en hausse de 2,2%. Donc, on a eu plusieurs très bons résultats financiers. Même Apple, qui en fait a eu des résultats peut-être un peu, moins mauvais que craint.
Ouais.
Better than feared, là, en anglais. Donc, finalement, des baisses des ventes, des baisses des marges, mais par contre, quand même, somme toute, là, moins pire que ce que le marché craignait. Aujourd'hui, par contre, une grosse journée pour beaucoup de nos clients au niveau des résultats financiers. Là, on a Savaria, Stella John, Manuvie, Brookfield, PowerCorp, Boralex qui vont annoncer des résultats financiers. Donc, ça pourrait créer du mouvement là, dans les portefeuilles au cours de la journée d'aujourd'hui et demain. Au niveau des taux d'intérêt, donc la raison que les marchés ont bien fait là, dernièrement, les chiffres d'emploi aux États-Unis étaient un peu moins forts que prévu. Les taux d'intérêt aux États-Unis sur les échéances de 10 ans ont baissé de 4,67 à 4,46, donc 0,2 de baisse en une semaine. C'est quand même là, une baisse qui est significative. Même chose du côté canadien, on est passé de 3,75 à 3,58. Notre dollar canadien a légèrement faibli, on est à 72,7 et on a aussi le pétrole qui a baissé d'environ 5 $ le baril qui devrait aussi avoir un impact favorable sur les chiffres d'inflation. Une nouvelle qui a retenu notre attention au cours de la semaine, on sait que le secteur des énergies renouvelables a été un secteur plutôt misérable là, depuis 2 ans. Puis on sent un espèce de détachement, on l'a mentionné là, quand on a fait notre podcast sur le jour de la Terre, entre autres, où il y avait un certain désintéressement vers l'énergie renouvelable. Ben voilà que Microsoft a annoncé une entente avec Brookfield Renewable pour acquérir de l'énergie renouvelable jusqu'à 10 gigawatts afin de que leur centre de données pour l'intelligence artificielle soit 100% autonome dès 2030 avec de l'énergie renouvelable. Ça a eu pour effet que le titre de Brookfield Renewable a augmenté de 20% depuis cette annonce-là. Donc, en quelques jours, une hausse très importante du titre. Comme quoi, des fois, la patience, tu sais, quand ça fait du sens à long terme, il faut patienter parce qu'éventuellement, le marché va reconnaître cette opportunité-là. Donc, je trouvais que c'est un bel exemple là, de demeurer patient avec un secteur qui fait du sens, même s'il est complètement boudé depuis un an ou deux. Et d'un point de vue de la planète au complet, je pense que c'est une bonne nouvelle que malgré l'espèce de vent politique qui est un peu contre les investissements socialement responsables aux États-Unis, ben, les entreprises prennent des démarches quand même pour devenir 100% en énergie renouvelable. Puis Microsoft a été un chef de file là-dedans. Fait que je trouvais que c'est une bonne nouvelle, le fun à partager avec nos investisseurs.
Puis l'intelligence artificielle a besoin d'énergie.
Énormément d'énergie, oui.
Ben, merci beaucoup, Martin. Le gouvernement fédéral a récemment dévoilé son budget 2024, dans lequel il propose un rajustement du taux d'inclusion des gains en capital. Nous avons reçu plusieurs appels de clients inquiets à ce sujet-là. Il y a beaucoup de questionnements quand il y a des changements comme ça. Nous en avons parlé brièvement sur le balado, mais pas en détail. Donc aujourd'hui, on veut adresser les conséquences pour les investisseurs et les contribuables. Donc premièrement, Martin, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un gain en capital et quels sont les changements apportés par le gouvernement?
Ouais, tout simplement, un gain en capital, ben, se produit lorsqu'on vend un actif à un prix plus élevé que le prix auquel on l'a payé. Et donc, ça inclut évidemment souvent les placements dans les comptes non enregistrés, la résidence secondaire, par exemple, comme le chalet. Il y a certains biens qui sont exclus. La résidence principale est exclue. Mais même, tu sais, on se souvient qu'en 2021, les auto-usagers même se vendaient plus cher. En principe, on aurait dû déclarer, par exemple, un gain en capital sur la Honda Civil 2008 qui se vendait plus cher que 2-3 ans avant. Là. On aurait pu et même dû déclarer un gain en capital. Le changement qui a eu lieu, donc historiquement, là, depuis quand même fort longtemps, là, au début de ma carrière, rapidement, là, donc dans les années 2002, 2003, 2004, dans ce coin-là, le taux d'inclusion du gain en capital a été réduit à 50%. Donc, quand je réalise 100$ de gain en capital, j'avais 50$ qui étaient imposables et 50$ pas d'impôt à payer dessus. Ce qui a été modifié, donc à partir du 25 juin, le taux d'inclusion sera de 2/3. Donc, si je réalise un gain de 100$, je devrais ajouter 66,6$ à mon revenu imposable et 33$ sera non imposable. Donc, pour les sociétés et les fiducies, le premier dollar est inclus aux 2/3. Là, donc, il n'y a pas d'exclusion. Pour les particuliers, donc si je détiens personnellement mon chalet, mes placements, le premier 250 000 de gains réalisés dans une année sera toujours à 50% d'inclusion. C'est seulement le montant au-delà du 250 000 qui sera aux 2/3. Donc, si je fais un gain de 260 000, ben, dans mon rapport d'impôt, je vais avoir 10 000 à 2/3 puis 250 000 à 1/2. Là. Donc, c'est pas le 260 au complet. C'est pas le fait d'avoir un gain supérieur à 250, c'est juste la portion au-delà du 250 qui devient
pour un particulier.
Pour un particulier. Pour les sociétés, le premier dollar, dès qu'on a gain capital, c'est aux 2/3.
Et qui est concerné par ce changement-là?
Donc, tous les particuliers, toutes les sociétés, toutes les, par exemple, les gens qui ont une société de gestion, qui ont peut-être vendu une entreprise, les professionnels de la santé, souvent, qui sont incorporés. Donc, il y avait leur portefeuille de placement dans une société incorporée. Donc, pour eux, c'est un changement qui est significatif. Ça concerne aussi ben, les gens qui ont acheté un chalet il y a 25 ans, ils ont payé 72 000, puis là, c'est sur le bord du même frémagogue, ça vaut 450 000, 500 000, 1 million. Donc, ça peut être des gains qui sont très importants sur la résidence secondaire.
Bien, puis c'est surtout les gens qui ont du locatif. Hein. On a beaucoup de clients exact. Qui ont du locatif.
Puis, tu sais, le monsieur, madame retraité qui vit en haut de son duplex, puis le bas est loué, puis ça fait 30-40 ans qu'ils ont la propriété, bien, la moitié de l'immeuble est imposable parce que c'est loué. Donc, la mesure visait les riches. Donc, le gouvernement, en faisant ces changements, lui disait, bon, il y a seulement... c'est un très petit pourcentage de la population qui déclare des gains de 250 000, mais quand même, ce n'est pas que des riches qui sont touchés par cette mesure-là.
Non, pas du tout. Je pense qu'il y a certains de nos clients qui ne se sentent pas nécessairement dans cette catégorie-là. Concrètement, qu'est-ce que les particuliers et les entrepreneurs devraient faire?
Ouais. Premièrement, on ferme les yeux, on respire par le nez, on relaxe, on a jusqu'au 25 juin, donc ce qu'on ne doit pas faire, c'est paniquer. Donc, il faut d'abord comprendre que notre résidence principale demeure exempte d'impôt. Donc, pas de panique là-dessus. Si je suis le vendeur d'une petite entreprise, là, j'ai ma PME opérée activement, il y a toujours l'exclusion du gain en capital qui est maintenant à 1 250 000 qui est exclu. Le reste sera imposé là, selon la grille d'inclusion là, du demi ou du 2/3. Donc, si je suis un particulier, les avis là ont été émis en général là, donc je répète tout le temps là, je suis un planificateur financier, donc c'est quoi la réponse, Sarah?
Ça dépend.
Donc mais en général, un particulier, si on a un horizon de détention inférieur à 7 ans, donc on va ça pourrait être une bonne idée de cristalliser un gain. Donc, les personnes peut-être plus âgées qui ont un gain très important dans le portefeuille de placement, tu sais, qui ont, mettons, 500 000, 1 million de gains en capital latent, puis ils ont un horizon de placement de moins de 7 ans, peut-être parce qu'ils veulent faire une dépense importante, peut-être parce que l'espérance de vie est limitée, ça pourrait être une bonne idée de cristalliser le gain, de payer maintenant de l'impôt au lieu d'en payer plus tard.
Puis, il y a des clients qui vont dire, je m'en fous. À mon décès, vont gérer la facture fiscale, puis ça va être correct. Puis ça, c'est tout à fait correct.
C'est ça. Donc, nous, on va donner la réponse rationnelle qui est de dire, en bas de 7 ans, on devrait faire quelque chose. Puis c'est quand même raisonnable de dire, tu sais quoi, c'est pas une énorme différence, je fais pas. Si c'est plus que 7 ans, Bien, ce qu'on va dire, c'est oui, vous allez payer plus d'impôts sur votre gain en capital. Par contre, si je paye de l'impôt tout de suite, j'ai de l'argent qui quitte le portefeuille de placement immédiatement et cet argent-là cesse de générer un rendement. Donc, le 7 ans, il vient un peu de là, le calcul qui a été fait, c'est de dire, bien, l'argent que je ne paye pas en impôt tout de suite va me générer suffisamment de revenus de placement, de rendement, pour couvrir l'impôt supplémentaire que j'aurai à payer. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, pour les particuliers, si je détiens le placement personnellement, comme à peu près 7 ans, c'est un peu la règle du pouce qui a été suggérée. Si je détiens les placements dans une entreprise, donc ceux qui ont des compagnies de gestion, donc là, c'est si j'ai une période de détention de moins de 4 ans, on va dire ben on devrait vendre, cristalliser le gain et sortir l'argent de la compagnie par l'entremise du compte de dividende en capital, du dividende non déterminé, et puis sortir le reste et placer personnellement de sorte que le gain en capital futur sera exempt là, du premier 250 000. Si ma période de détention est de 4 à 11 ans, puis là, on s'entend, là, tu sais, mettons que c'est 10 ans et demi, ça se peut que ça fasse du sens, ou 11 ans et quart, tu sais,
c'est difficile de savoir, en réalité.
On répète que ça dépend du cas par cas, mais règle générale. Donc, si je suis de 4 à 11 ans, on va dire, bien, vends, cristallise, mais sors uniquement le montant sans impôt du compte de dividende en capital et le montant du dividende qui te permet de récupérer l'IMRTD-MD. L'impôt en main remboursable au titre du dividende non déterminé. Alors là, on est dans des concepts comptables un peu poussés. Oui. Si c'est des lettres que vous avez déjà entendu parler, il faut en parler à votre comptable. En fait, c'est lui qui a vraiment le visuel sur la chose. Si on a un horizon de placement de 11 ans et plus, on fait rien du tout. On continue comme si de rien n'était. Il faut pas exclure non plus la probabilité, la possibilité que cette loi, cette règle-là, ben là, on est à 2/3. Ça a déjà été 3/4, donc c'est pas exclu que ça monte à 3/4. Ben là, ça viendrait changer nos périodes de détention. C'est pas exclu que ça redescende à 1/2 aussi, éventuellement. Ouais. On le sait pas. Donc, tu sais, 11 ans, qui peut prédire qu'est-ce qui va arriver d'un point de vue politique dans les 11 prochaines années? On verra bien, là. Donc, on continue de respirer par le nez.
Je pense que l'idée centrale, c'est de dire, parlez à vos spécialistes dans votre vie, parlez à votre comptable, ouais. Parlez-nous. Nous, des fois, on peut parler avec votre comptable aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et c'est vraiment le message important parce que oui, ça dépend. Et puis, il ne faut pas se garrocher pour faire des mouvements rapides et s'inquiéter avant de parler aux spécialistes. Donc, est-ce que cela pourrait avoir un impact sur nos stratégies d'investissement?
Oui, bien, c'est sûr que un client qui a beaucoup de gains en capital dans son compte, mais tu sais, c'est moins probable qu'on va souvent déclencher plus que 250 000. Là. C'est un gros chiffre. Là. Mais tu sais, ça pourrait nous forcer à dire, tu sais quoi, je vais prendre un 10, 15, 20 000 de gains à chaque année pour m'assurer que mon gain latent dans mon portefeuille soit jamais bien en haut de 250 000 à long terme, de sorte que à la succession, quand je suis réputé avoir vendu tous mes placements, bien que je n'ai pas un énorme gain en capital. Donc, peut-être d'en vendre un petit peu. Il va falloir aussi récolter les pertes en capital. Donc, la stratégie aussi, c'est que si le gain en capital sera inclus aux 2/3, bien, il y a une question aussi, la perte aussi, elle sera aux 2/3. Donc, dans les entreprises, l'idée, c'est qu'on collecte les gains avant le 25 juin, mais si on a réalisé des pertes, on les prend juste après le 25 juin, de sorte que le taux d'inclusion sera un petit peu plus élevé. Donc, oui, on va devoir peut-être un peu s'ajuster. Il y a certains professionnels qui disaient, ben, je vais m'incorporer. Peut-être que c'est moins intéressant. Je ne dis pas que ça ne l'est plus. Ce sera au fiscaliste et au comptable de valider ça. Mais c'est certainement une mesure qui vient réduire l'attrait et la pertinence de s'incorporer plutôt que de détenir des placements au niveau personnel.
Puis il faut continuer d'utiliser le REER, le CELI, autant que
100%, exact.
Autant que possible. Parfait, Martin. Ben, je pense qu'il y a tellement plus de choses qu'on pourrait discuter à ce sujet-là, mais le message est toujours le même. Communiquer avec nous pour votre situation personnelle. Merci encore pour toutes les nouvelles que tu nous as données, Martin. Et appelez-nous si vous avez des questions concernant vos besoins, vos questions ou vos objectifs financiers personnels. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.